le magazine des Nations Unies.
Violation de droits de l'homme en hausse en RDC, 280 cas enregistrés au mois de mai dernier contre 239 au mois d'avril. C'est ce qui révèle un rapport du Bureau conjoint des Nations Unies des droits de l'homme publié le mercredi dernier à Kinshasa. Le détail sur ce rapport dans cette édition. Un individu sur 122 est aujourd'hui réfugié, déplacé ou demandeur d'asile. Affirmation de Ban Ki-moon dans son message à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés. La RDC accueille sur son territoire environ 240 000 réfugiés. Dans cette édition, vous saurez comment les HCR définissent ces personnes et ça sera dans notre rubrique décryptage. Autre actualité, c'est la célébration de la Journée de l'enfant africain. Coup de projecteur sur la situation des enfants à Kinshasa. Le magazine des Nations Unies a promené son micro dans les ménages et rues de la capitale. Enfin, des signes précurseurs de la sécheresse en RDC signalés dans la province du Katanga et du Congo central, selon un expert du PNUD RDC. Le phénomène se constate par l'écourtement de la saison de pluie dans la province cuprifère et la savanisation de ce qui fut la grande forêt de l'ex-Bas-Congo. Des détails avec l'invité du magazine. Voilà tout pour le sommaire.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans ce magazine. Je le disais tantôt au sommaire, 280 cas de violation de droits de l'homme enregistrés au mois de mai dernier en RDC. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a présenté son dernier rapport mensuel le mercredi dernier à Kinshasa. Il ressort que ces violations ont connu une hausse par rapport au mois d'avril qui avait connu 239 cas. Jean-Pierre Elali pour les détails.
Selon José Maria Aranaz, directeur du Bureau conjoint, les provinces sont le plus touchées sont celles de l'Est. Les responsables de ces violations se recrutent tant parmi les militaires des FRDC que parmi les combattants des groupes armés. Toutes tendances confondues. Et dans le cadre du processus électoral, ces violations concernent les atteintes au droit à la liberté d'opinion, d'expression et des réunions.
Au mois de mai, le bureau a enregistré 8 violations des droits de l'homme en relation avec le processus électoral à venir. Les types de violations les plus rapportées sont l'atteinte au droit à la liberté d'expression, d'opinion, 3 cas, et des réunions pacifiques. Des cas. Et depuis le début de l'année, on a enregistré 68 cas de violation des droits de l'homme en relation avec le processus électoral à venir.
Des cas de viol sont également répertoriés dans ces rapports.
Dans la province de Katanga, on a enregistré l'engravement de tensions entre les communautés Pygmy-Batwa et les Luba. Selon les informations collectées pendant ces missions, des présumés éléments de la milice Luba, appelés éléments katangais, auraient commis au moins 109 violations des droits de l'homme, à savoir 53 exécutions arbitrées, 8 viols et 63 cas d'enlèvement, donc les victimes seront principalement les Pygmy Batwa.
Par ailleurs, sur un autre volet, celui de la lutte contre l'impunité, le bureau conjoint note avec satisfaction qu'en mai dernier, au moins 11 militaires ont été condamnés par la justice militaire à travers le pays.
Autre actualité cette semaine, c'est la célébration mardi 16 juin dernier de la Journée de l'enfant africain. Le magazine des Nations Unies vous propose ce reportage qui donne une idée sur la situation des enfants à Kinshasa. Agathe Mpona-Elema est allée à leur rencontre.
Christelle, Lémi et leurs amis semblent vivre une vie normale. Ils sont scolarisés par leurs parents et ont des projets d'avenir.
Je passe en 5e littéraire.
Plus tard, tu veux faire quoi?
La communication sociale à l'ICC.
Je suis en première, j'ai envie d'être pilote.
Je suis en première, je veux être avocat.
Papa. C'est un médecin.
Le DG RTL.
Travaille au ministère des Finances.
Je m'appelle Olance, 2e. Je compte travailler dans la banque. Ma maman, c'est une femme d'affaires et mon père travaille à nos cafés.
Rubin et bien d'autres comme lui, par contre, sont obligés de mendier et de s'adonner à de petits métiers pour survivre, ce qui ne les empêche pas d'avoir également des rêves comme tous les enfants de leur âge.
Nous venons chercher de l'argent pour manger, maman. Je rêve de devenir médecin.
Mais est-ce que tu étudies?
Non.
Tu t'arrêtes en quelle classe?
Je n'ai jamais étudié. Moi, j'ai 17 ans, je m'appelle Munongo, je suis sureur. Cette année, je n'ai pas étudié. J'ai 4 aînés de l'ISP. Papa n'arrive pas à nous soutenir tous. Maman est déjà morte. Il est seul, il n'arrive pas à supporter la charge. Moi, je rêve faire la mécanique. Moi, je m'appelle Benoît. J'ai 15 ans, et si je lave les véhicules, je n'étudie pas parce que je n'en ai pas le moyen. Si j'ai le moyen, je rêve de devenir médecin. Si quelqu'un veut bien me payer les études, je retournerai à l'école.
La journée de l'enfant africain est une journée qui a été instituée en 1976 pour faire le point sur la situation des droits de l'enfant africain.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le 20 juin, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale des réfugiés. Cette année n'a pas fait exception. Près de 60 millions de personnes sont actuellement en situation de déplacement forcé dans le monde, dont environ 240 000 en République démocratique du Congo. Et parmi ces personnes, il y a des réfugiés proprement dits, des demandeurs d'asile, des déplacés et même des apatrides. Céline Smith est porte-parole à la représentation régionale du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en RDC. C'est avec elle nous allons décortiquer toute cette terminologie. Céline répond aux questions d'Honoré Missenga Kalala.
Céline Smith, bonjour.
Bonjour.
Le 20 juin de chaque année, depuis 2001, les États du monde célèbrent la Journée mondiale des réfugiés. D'abord, vous allez nous aider un peu à la compréhension de la terminologie et en usage au OACR. Comment le OACR définit-il le concept réfugié ?
Un réfugié est une personne qui est forcée de fuir son pays. Forcée de fuir son pays pour cause de guerre ou pour cause de persécution liée à sa race, ses origines, sa religion également. Donc un réfugié est une personne qui fuit son pays et qui traverse une frontière et qui cherche la protection, le refuge et la sécurité dans un autre pays.
On entend également parler du rapatrié. Le rapatrié, c'est qui ?
Un rapatrié est un réfugié qui est rentré chez lui. Donc c'est-à-dire un réfugié, par exemple, congolais qui était au Rwanda et qui a décidé de rentrer chez lui parce que la situation dans son pays, la RDC, était à nouveau stable. Donc, une fois rentré chez lui, le réfugié devient un rapatrié. Et bien sûr, ensuite, il devient à nouveau un citoyen qui vit dans son pays.
D'autres concepts sont également utilisés dans le cadre de la mission du ASR, apatride, demandeur d'asile et déplacé interne. Et comment comprendre aussi chacun de ces termes ? D'abord, apatride.
Un apatride est une personne qui n'a pas de nationalité. C'est-à-dire, c'est une personne qui n'a pas de pièce d'identité. Et pour cela, peut être discriminé, peut ne pas avoir accès à ses droits, c'est-à-dire voter, par exemple, ou parfois même, il n'a pas accès aux soins de santé, il n'a pas accès à l'éducation, puisqu'il n'est pas un citoyen du pays dans lequel il réside. Cela peut être causé par différentes choses. Parfois, l'apatridie est liée à la discrimination d'un groupe minoritaire qui ne se voit pas attribuer la nationalité dans un certain pays. Ou certaines personnes peuvent perdre aussi leur nationalité parce qu'ils ont fui leur pays, n'ont plus de documents d'identité de ce pays-là, mais ne sont pas des nationaux de pays dans lequel ils ont fui. Et donc là aussi, ils peuvent perdre leur nationalité et donc être discriminés pour cela et ne pas jouir de leurs droits.
Alors, un demandeur d'asile ?
Un demandeur d'asile est une personne qui a fui son pays pour des raisons de guerre ou conflit ou de persécution, qui arrive dans un autre pays et il demande l'asile dans ce pays. Par exemple, en RDC, il y a des demandeurs d'asile de pays voisins. Donc par exemple, il peut y avoir des demandeurs d'asile de la République du Congo qui arrivent en RDC. Une fois arrivés en RDC, ils se rapprochent des autorités congolaises pour présenter leur cas, présenter leurs problèmes et demander l'asile en RDC. Il y a une commission qui se réunit pour ensuite étudier les cas des demandeurs d'asile et statuer sur leur cas et décider s'ils sont ou non des réfugiés.
Revenons-en maintenant au déplacé interne. C'est qui un déplacé interne ?
Un déplacé interne est une personne qui a été forcée de se déplacer dans son propre pays, mais qui n'a pas traversé une frontière. Donc un déplacé interne fuit aussi un conflit, ou alors parfois également une catastrophe naturelle, mais se réfugie dans une autre région, une autre ville de son pays, mais ne traverse pas une frontière, donc ne devient pas un réfugié.
Réfugié, rapatrié, apatride, demandeur d'asile, déplacé interne, le ASR s'occupe de tout ce monde.
Oui, le mandat du HCR, effectivement, est tout d'abord de protéger et d'assister les réfugiés. mais en collaboration et en appui aux États qui accueillent des réfugiés. Donc par exemple, ici en République démocratique du Congo, nous travaillons avec les autorités congolaises, et plus particulièrement le ministère de l'Intérieur et la Commission nationale pour les réfugiés. Nous travaillons en concertation avec eux pour assurer la protection des réfugiés et également leur assistance. Nous apportons également un appui aux autorités congolaises pour qu'elles puissent exercer leur devoir de protéger les réfugiés qui sont en RDC. En ce qui concerne le rapatriement, là encore, on travaille avec les pays qui accueillent les réfugiés, mais aussi les pays dans lesquels les réfugiés retournent, pour organiser ce qu'on appelle le rapatriement volontaire des réfugiés, donc permettre aux réfugiés qui souhaitent rentrer chez eux parce que la paix est revenue dans leur pays, de pouvoir rentrer chez eux. Les apatrides également relèvent du mandat du HCR, donc trouver des solutions pour lutter contre l'apatridie. Et finalement, pour les déplacés internes, le HCR est en charge d'un certain nombre de secteurs d'assistance aux déplacés internes, notamment la protection, mais également l'abri et la gestion des camps de déplacés internes.
Est-ce que vous avez des cas d'apatridie en RDC ?
Alors pour l'instant, ce que nous faisons en RDC pour lutter contre l'apatridie, c'est que nous sommes en contact avec les autorités pour les encourager à signer la convention de lutte contre l'apatridie.
Une dernière question, Céline Smith, par rapport à la journée du 20 juin, journée mondiale des réfugiés. Vous pouvez faire un résumé de la mission du HCR en RDC pour les auditeurs ?
En RDC, le HCR travaille dans les quatre coins du pays, à la fois pour apporter protection et assistance aux réfugiés, mais également aux déplacés internes, et pour aider les Congolais réfugiés dans les pays voisins à rentrer chez eux, mais également les réfugiés en RDC à rentrer chez eux s'ils le souhaitent. Donc nous avons une opération importante dans la province de l'Équateur, où nous gérons quatre camps de réfugiés pour les réfugiés centrafricains. Donc il y a plus de 98 000 réfugiés centrafricains qui vivent actuellement en RDC. Dans le sud du pays, donc Kinshasa, le Bas-Congo, mais également le Katanga, nous avons une opération en cours de rapatriement volontaire des anciens réfugiés angolais qui vivent ici en RDC. Et au Katanga également, nous avons des programmes pour apporter assistance aux personnes déplacées internes, notamment dans le nord du Katanga, donc autour de Kalemie, mais également à Manono, Mitwaba et Pweto. Ensuite, à l'est du pays, vers le nord-est, donc Sud Kivu, nous avons une opération d'assistance aux réfugiés burundais qui arrivent, mais également aux personnes déplacées internes. Au nord Kivu, il s'agit des réfugiés rwandais, donc nous continuons l'opération de rapatriement volontaire des réfugiés rwandais qui souhaitent rentrer chez eux, mais également nous avons l'opération d'enregistrement biométrique qui est en cours, et nous gérons des camps de déplacés internes. Et ensuite, en province orientale, là notre réponse est beaucoup plus axée sur les déplacés internes, donc apporter une protection, une assistance aux personnes déplacées internes.
Céline Smith, merci.
Merci beaucoup.
C'est par la CPI que nous ouvrons cette page. C'est le 16 et le 8 juillet prochain que sont programmées les déclarations d'ouverture du procès Bosco Ntaganda, ancien chef milicien. C'est ce qu'a décidé mardi 16 juin la chambre de première instance de la Cour pénale internationale. Et cela se passera, non comme prévu initialement à Bunyan-Ituri, mais à La Haye, au siège de la juridiction. Protection de l'enfant, des enfants, reporters de l'UNICEF bientôt en tournée à l'hôtel des villes de Kinshasa et dans 8 maisons communales de la capitale, au Parlement national, au Conseil de la magistrature et au gouvernement. Il s'agit d'une tournée des plaidoyers contre le mariage précoce en RDC. Cette tournée devrait débuter avant la fin du mois de juin et cela entre dans le cadre de la célébration de la journée de l'enfant africain. Enfin, rendons-nous à Goma, au nord Kivu, où a été lancée le mercredi 17 juin 2015 une campagne contre le VIH-Sida, les discriminations et stigmatisations liées au VIH-Sida, ainsi que contre les violences sexuelles basées sur le genre. La MONUSCO, l'OIM, entendez, Organisation internationale pour les migrations, l'ONU-SIDA et le PNUD participent à cette campagne lancée par le Programme national multisectoriel de lutte contre les VIH-SIDA, PNMLS. Environ 10 000 personnes sont attendues pour un dépistage volontaire au cours de cette campagne.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
La journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, c'est le 17 juin de chaque année. La République démocratique du Congo n'est pas à l'abri de ces phénomènes. Affirmation de l'invité du magazine des Nations Unies, reçu en marge de la célébration de cette journée. Monsieur Charles Wasikama est notre invité. Il est conseiller en charge de l'environnement au programme des Nations Unies pour le développement PNUD RDC. Écoutez son éclairage sur ces phénomènes dans cet entretien avec Honoré Missenga Kalala.
Charles Wasikama, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de l'environnement au PNUD. Le monde a célébré le mercredi 17 juin dernier la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. D'abord, Monsieur Charles, qu'est-ce que vous entendez par la désertification, la sécheresse et quelle est la différence entre les deux concepts?
On parle de désertification quand la Terre perd ses propriétés chimiques, biologiques, physiques, au point que on a rareté de végétaux dessus, il n'y a plus rien. Vous savez, quand on parle de désert, même dans le langage courant, c'est quand on ne voit rien. On a le sable seulement, donc la terre devient improductive. Et c'est sur une étendue un peu vaste. Hein. La terre s'est dégradée dans les zones arides, semi-arides, sub-humides, sub-humides. On parle alors de désertification.
Et la sécheresse?
Quand on parle de sécheresse, on voit déjà l'aspect eau. Et c'est un état de l'environnement qui correspond à un manque d'eau sur une période qui est suffisamment longue, que cela impacte la faune et la flore. Quand on parle de faune, c'est la faune sauvage, la faune domestique, la flore c'est plantée ou naturelle.
Alors, quels sont les signes précurseurs de la sécheresse dans un pays?
On sent déjà que la sécheresse est dans le pays quand on commence à sentir la perturbation même de la pluviosité. Les pluies se font rares, il y a l'eau qui se fait rare. On sent que l'étiage commence à durer pour les cours d'eau, n'est-ce pas? Les périodes d'étiage, vous voyez que ça dure, ça commence déjà à donner des signes de sécheresse.
Alors, quel est l'état des lieux de ce phénomène en République démocratique du Congo? Est-ce qu'il y a des provinces qui sont les plus touchées?
Oui, je crois que le cas dont on parle le plus, c'est au Katanga, où il y avait dans le temps 6 mois de saison de pluie, 6 mois de saison sèche. Maintenant, on trouve que la saison sèche devient de plus en plus longue. Hein? 8 mois de saison sèche, 4 mois de saison pluvieuse. Donc, c'est déjà des signes de sécheresse. Il y a aussi le Bas-Congo, hein, où dans le temps, il y avait une végétation forestière assez proche de la forêt équatoriale. Mais actuellement, ça tend vers la savanisation et on voit que les pluies se font de plus en plus rares aussi. Là, il y a une perturbation qui est ressentie même du côté agricole.
Alors, quelles sont les causes de ces phénomènes, d'après vous?
Bon, vous avez entendu parler des changements climatiques. Quand on prend le cas de la RDC, la grande contribution que nous avons dans ce phénomène, c'est le type d'agriculture que nous pratiquons. L'agriculture itinérante sur brûlis, n'est-ce pas, où on coupe les arbres, etc. On cherche de nouvelles terres pour produire. Ça, c'est une des grandes causes. Il y a toutes les activités des entreprises qui polluent la terre, n'est-ce pas? Quand on voit par le mining, ça dérange aussi le sol. Il y a beaucoup de causes. Tout ce qui participe à la détérioration de la qualité chimique, physique, biologique de la terre participe à ça. Donc, les causes sont multiples.
Mais les conséquences alors de la désertification de la sécheresse dans un pays comme la RDC, c'est lesquelles?
Vous savez que quand les sols sont en bon état, les sols permettent de produire la nourriture, n'est-ce pas, pour les humains. Ça permet d'avoir des aliments pour le bétail, le gibier. Ça permet d'avoir des fibres pour les habits. Ça permet d'avoir le bois pour les usages multiples. Ça permet de réguler l'atmosphère, n'est-ce pas, avec l'absorption du carbone. Ça permet aussi de purifier les eaux, recharger les nappes souterraines. Ça joue un rôle d'appui à l'écosystème. Il y a beaucoup de rôles que jouent les sols en bon état. Et quand on détériore l'état de sol, vous voyez ce que ça peut impliquer déjà. Et vous allez voir que la production devient très mauvaise, très faible, de mauvaise qualité. Il y a beaucoup de maladies de plantes qui apparaissent. Donc, ça amène une insécurité, notamment alimentaire. Hein.
Charles Wasikama, revenons maintenant à la journée du 17 juin. Le thème de cette année était l'objectif d'une sécurité alimentaire pour tous à travers des systèmes alimentaires durables, avec un slogan évocateur. On n'a rien sans rien, investissons dans des sols vivants. Expliquez un peu ce thème, Monsieur Charles.
Comme je venais de le dire tout à l'heure, la Terre joue beaucoup de rôles, et surtout dans le cadre de l'objectif qu'on a de sécurité alimentaire. Vous savez que les plantes ne donnent très bien que quand le sol est bon. Parce que la plante puise des éléments nutritifs dans le sol pour produire. Mais quand le sol est mort, les aspects bioproductifs du sol ne sont plus fonctionnels. Vous voyez qu'on ne peut pas tirer de ce qui est mort quelque chose qui soit vivant. Donc s'il n'y a rien dans le sol, il n'y a pas d'éléments nutritifs, on ne peut rien tirer de ce sol-là. Donc on n'a rien sans rien. Alors pour qu'on ait quelque chose, il faut qu'on puisse bien traiter le sol, aider le sol à vivre. On dit que la terre est nourricière. Et on sait que quand on parle d'une mère nourricière, cela donne l'idée d'une mère qui nous a donné la vie, qui nous a nourris et qui nous a aidés à devenir adultes.
Monsieur Charles, on connaît les causes et les conséquences de la désertification. Alors comment on peut lutter contre la désertification et les changements climatiques? Quels sont les efforts faits en cette matière par la RDC?
Pour lutter contre la désertification, comme je dis que la désertification résulte d'une dégradation de l'état des sols. Donc il faut avoir des pratiques qui permettent au sol de se nourrir. Par exemple, quand on a fait des travaux agricoles, qu'on a fait la récolte, on peut utiliser les résidus de plantes pour couvrir le sol, laisser le sol à jachère, le temps de se remettre, n'est-ce pas, en bon état, et être encore toujours productive. Donc on doit amender le sol, l'aider à être vivant, n'est-ce pas, pour que quand on met la semence, que la semence puisse puiser des éléments pour produire. Donc, investir dans ce qui peut nourrir le sol, éviter de dégrader le sol, ça c'est pour la désertification. Mais parlant du changement climatique, il y a deux grands aspects à considérer. Le changement climatique est le résultat du réchauffement de la planète qui est dû aux émissions des gaz à effet de serre, qui viennent principalement de l'activité humaine. Alors, ces gaz à effet de serre sont émis à travers l'agriculture, quand on exploite les énergies fossiles, n'est-ce pas, comme le pétrole, même quand on brûle le bois, n'est-ce pas? Donc, il faut investir dans des activités qui vont réduire, n'est-ce pas, les émissions de gaz à effet de serre. C'est pourquoi en RDC, il y a même un projet qui est mis en place, qu'on appelle les NAMAS, c'est-à-dire des actions qu'on a acceptées au niveau national, n'est-ce pas, pour réduire, n'est-ce pas, les émissions de gaz à effet de serre. Et là, on considère principalement le domaine de l'agriculture et de l'énergie, ici en RDC. Ça, c'est un exemple. L'autre aspect, c'est l'adaptation pour lutter contre le changement climatique. Il y a déjà des effets du changement climatique qui sont déjà ressentis, qui sont dus aux actions prises par le passé. Il faut maintenant que la population, la RDC, puisse arriver à prendre des mesures qui permettent aux gens de faire face à ces changements climatiques, n'est-ce pas? À s'adapter, n'est-ce pas? À s'ajuster, n'est-ce pas? Prendre des mesures de précaution pour lutter contre les poussées de chaleur. Il y a la terre qui se dégrade, il faut trouver des moyens pour amender le sol, etc. Donc, tout ce qui permet à la population de faire face à ce choc climatique, ça permet aussi de lutter contre ce choc.
Charles Orsikama, merci.
Rendons-nous à présent à Bounia, en province orientale, la société civile des Litouri, dotée d'un bâtiment pimpant neuf. Bâtiment dont la construction a bénéficié d'un financement de 41 000 dollars de la MONUSCO. La remise de cet ouvrage a eu lieu la semaine dernière. Jean-Claude Lokissi, ce reportage.
D'une superficie de 108 mètres carrés, ce bâtiment comporte une salle de réunion et 5 salles pour abriter différents bureaux des organisations membres de la société civile. Il est également raccordé à une électricité. La MONUSCO a baptisé ce bâtiment Maison de la société civile. Mohan Ladjouzi, chef du bureau de la MONUSCO en Éthiopie.
Nous lui avons donné ce nom pour faire savoir à la population que cet endroit permettra aux différentes associations, organisations non gouvernementales rassemblées en groupe thématique d'adhérer au mécanisme formel de fonctionnement du cadre de concertation et de dialogue sur les politiques publiques, de rehausser le diagnostic sur le partenariat entre le cadre de concertation et le gouvernement ainsi que les partenaires techniques et financiers. Et à notre échelle, nous avons le sentiment d'avoir apporté notre contribution à l'émergence de la dynamique associative locale et à la bonne image de ceux qui ont travaillé à cette réalisation.
Tous les délégués des coordinations de la société civile venus des 5 territoires étaient présents à cette cérémonie. Le fonctionnaire résident de Bounia, Ferdinand Fimbo-Libili, a quant à lui demandé aux bénéficiaires de ce projet de la MONUSCO d'en faire bon usage. Pour les coordinateurs de la société civile de l'Ituri, l'acquisition de ce bâtiment vient mettre fin à près de 17 ans de vie de location, faute de moyens pour s'offrir son propre siège. Maître Jean Bosco Lalo.
On a tenté de prendre une maison à location, on a supporté les coûts, mais à la fin, on n'a pas été à mesure de faire face aux coûts de loyer. travail. C'est pourquoi, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, la société civile a été sous-logée par une ONG membre. C'est une demande qu'on a formulée depuis bien longtemps. Ce n'est que l'année passée que le gouverneur de la province de terre actuelle a accepté de nous accorder le plan de terre actuel où on a érigé l'édifice.
Signalons que cette maison de la société civile de l'Ituri est érigée à côté du tribunal militaire garnison de l'Ituri à Bounia.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Restons toujours à Bounia pour répondre à la question de notre confrère Meman Junior de la RTNC sur les bilans des opérations contre les miliciens FRPI en Ituri. C'est le général Jean Bayot, commandant adjoint des forces de la MONUSCO qui répond. C'était au cours de la conférence des Nations Unies du mercredi dernier.
Le manager RTNC, ma question s'adresse au général Bayot. Pourrions-nous connaître les bilans actuels des opérations contre les miliciens du FRPI en Chaufferie de Walenou?
La réponse a déjà été donnée par le porte-parole militaire dans son exposé initial, donc je ne pense pas qu'il soit nécessaire que je le répète. Ce sont des chiffres qui ont été pour l'instant vérifiés, et c'est bien sûr un bilan incomplet, parce que nous ne prétendons pas connaître la situation de ceux qui se sont égarés, on va dire, dans la brousse. En revanche, ce dont nous sommes sûrs, et ce dont je peux témoigner devant vous, c'est du soin apporté aux FRPI qui ont été blessés, qui ont été soignés aussi dans nos hôpitaux de la MONUSCO, certains à leur demande, et je pense que nous devons en profiter également de lancer un appel pour que ceux qui sont actuellement en manque de soins et surtout ceux qui sont volontaires pour déposer les armes le fassent maintenant. Il s'agit de quoi? Il s'agit de sauver leur propre vie, il s'agit de sauver aussi le futur de leur famille et il s'agit aussi d'éviter demain de nouvelles exactions parce qu'on sait très bien que très rapidement ces gens-là risquent de retourner à leur travers et à tracasser et voire aussi faire des crimes envers les populations.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je suis Sylvain Baogurengunda, marié à Madame Élisée Koulondoa. Je suis père de trois jolis enfants, deux filles et un garçon. En ce qui concerne mon cursus scolaire, je fais mes études primaires à l'Épée Kikuku, au Nord Kivu, dans les territoires de Rutshuru. Je fais mes études secondaires à l'Institut Kasali, à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Mes études universitaires ou supérieures, je les ai faites à l'Institut supérieur de l'informatique, programmation et analyse, ISIPA, à Kinshasa. Pour mon parcours professionnel, actuellement je suis technicien radio, à Radio Kapi, et c'est là depuis 2003, où j'ai été engagé à partir de Bukavu comme technicien situé des remplacements et je remplaçais les collègues Manuel Kanagaro qui devraient partir en congé. Après Bukavu, je suis parti à Kananga où j'ai remplacé les collègues Alain Bidoye avec qui on travaille aujourd'hui. Après quelques temps, les chefs ont apprécié et ils m'ont proposé de rester à Kinshasa où j'ai commencé comme technicien studio et présentement j'ai fait la technique radio. Nous avons la tâche de faire la maintenance de tous les équipements de Radio Kapi, parce que Radio Kapi a actuellement 27 stations relais, dont les derniers nés et la station relais de Kichanga, dont je salue les auditeurs en passant. Et de tous ces studios, stations relais et studios, c'est nous les techniciens radio, l'équipe alors technique, qui a la charge de faire la maintenance de tous les équipements que nous utilisons. Si deux fois il y a un équipement qui tombe en panne par-ci par-là, on nous les ramène ici à Kinshasa, nous les réparons, nous les remettons à l'état et puis les retournons dans la station de son origine. Après ce travail, nous avons aussi autre tâche de faire l'installation. Donc avant que la station ne naisse, c'est nous qui allons sur le terrain, nous mettons tous les matériels nécessaires et la radio commence à émettre. Avant de venir à Radio Kapi, je suis parti d'abord au Rwanda Kigali, et là-bas j'ai profité à faire certaines formations techniques en électricité, en électronique et ainsi qu'en décoration et peinture. Après Kigali, j'ai trouvé mieux de rentrer au pays. Là, je faisais mes activités personnelles, toujours dans les domaines techniques et aussi dans les domaines culturels. J'ai eu à passer à certaines radios, même de la ville de Bukavu. On a fait l'animation à la RTNC Channel 1 à l'entrée de la FDL. Nous avons été aussi dans un groupe culturel à Bukavu, Tupenan aussi, Zarao. Après cette aventure, je suis parti chez une maison de montage audio-vidéo, maison multimédia. Nous avons eu la tâche des techniciens accessoiristes et aussi des monteurs audio-vidéo. C'est après cette aventure des Digitech, qui est une maison, les maisons dont je parlais à Bukavu, que je suis venu à Radio Okapi. En ce qui concerne mes préférences, oui, pour les manger, j'aime beaucoup les foufous et les poissons frais accompagnés des légumes. J'apprécie la boxe, j'écoute beaucoup la musique chrétienne et sinon la musique de l'ancien temps, bon, à l'époque on était jeune, les Dindoyogo précisément, Chokestaz, Empire Bakuba, là franchement on écoute. Mais sinon la musique des frères Alain Moloto m'aide beaucoup dans l'adoration et je l'apprécie aussi beaucoup. Pour les loisirs, j'aime des fois le week-end, je fais la marche. Pour les projets d'avenir, je me propose, je suis en train de me proposer de créer ma propre entreprise. Voilà, une entreprise individuelle après le départ de la mission. Merci.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
Quelques rendez-vous à retenir dans les calendriers des Nations Unies au cours de la semaine qui commence le 23 juin, un double événement, Journée des Nations Unies pour la fonction publique et Journée internationale des veuves. Le 26 juin, il y a également un double événement, la Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture et Journée internationale contre l'abus et le trafic des drogues.
Merci d'avoir suivi ce magazine coordonné par Jean-Pierre Elali. Honoré Missenga était au reportage et la mise en onde était assurée par Jean-Claude Siala. Bon dimanche à vous.